There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener-supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Eh oui, Popourri Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourrichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille?
Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre.
Saint-Omer, le premier long-métrage de fiction primé de la documentariste acclamée Alice Diop, sortira à travers le Canada à partir du vendredi 20 janvier 2023 et au TIFF Bell Lightbox. Saint-Omer, réalisé par Alice Diop, retrace l'histoire vraie d'une mère infanticide. Mais qu'est-ce qui a fait basculer cette maman à commettre ce crime? Des billets gratuits aux membres de la radio. Alors écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Saint-Omer, dès le 20 janvier, au TIFF Bell Lightbox Toronto. Un film de procès aussi implacable qu'impressionnant. Doublement récompensé à la dernière Mostra de Venise. Meilleur long métrage et grand prix du jury. Ce film a été choisi pour représenter la France aux Oscars 2023 et a obtenu le prestigieux prix Jean Vigo 2022 et le Lion du Futur. Saint-Omer d'Alice Diop, un film qui vaut le déplacement. Alors faites vite et courez la chance de gagner vos billets au TIFF Bell Lightbox. Tous les détails sur popourrichaud.com. Popourri Show vous souhaite une année riche en films remarquables. Bonne et heureuse année 2023. Dimanche 15 janvier 2023. Bienvenue sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto, qui célèbre aujourd'hui ses 36 ans. CUT FM, la voix des sans-voix, le son de votre ville. Mille merci aux auditeurs, auditrices à travers le monde qui ont réagi à notre émission de dimanche dernier. Et oui, très heureux de vous accueillir à notre troisième émission de 2023 pour nous mener à bon port. DJ Devera, accompagné de ses acolytes et des DJ autour du monde. Conception, production et animation, Eric Adair avec vous depuis plus de 35 ans au service de la francophonie. Pour nous écouter où que vous soyez dans le monde, une seule adresse, popourrichaud.com. Eh oui, Popourri Show, plus de 35 ans sur CUT 89,5 FM. Cela nous fait extrêmement plaisir d'être des vôtres aujourd'hui. Une émission qui donne la parole aux sans-voix de la francophonie torontoise et canadienne. Les témoignages libèrent la parole et jouent un rôle de prévention, aident au recul des préjugés. Cette émission est réalisée grâce à la précieuse collaboration de Radio France Internationale, France 24, TV5 Monde et la Société d'Histoire de Toronto, qui vous a concocté des visites guidées, de belles balades et des activités fascinantes pour ce début d'année. Veuillez visiter le site web sht.ca ou popourichaud.com. Et de notre partenaire Ciné Franco, qui a le plaisir de vous inviter à son festival annuel, un événement qui offre aux élèves francophones et francophiles de la région du Grand Toronto une occasion unique d'assister à la projection en salle de films pour la jeunesse en français. Ciné Franco Jeunesse pour les écoles se déroule du 21 février au 6 mars 2023 au cinéma Cinéplex Empress Walk, 595 rue Yonge à North York. Retrouvez les détails et les titres de films à l'affiche sur 2023.cinefranco.com. Et malgré la crise en Haïti, les mordus du jazz vous convient au festival Pap Jazz 2023.
Jazz it up. Come on, girl.
C'est une annonce que les amoureux du jazz et de la musique en général attendaient impatiemment. La 6e édition du très renommé festival Pap Jazz aura bien lieu au Cap Haïtien du 20 au 21 janvier. Cette 16e édition est dédiée à Toussaint Louverture, originaire du Cap Haïtien. 2023 marque les 280 ans de l'anniversaire de ce leader révolutionnaire, emblème de liberté pour Haïti. Et au programme, cette année, une constellation d'artistes de la planète jazz du monde, y compris des artistes d'origine haïtienne vivant à Montréal. Nous allons à notre façon, madame, monsieur, vous aider à vivre au rythme de certains artistes invités. Alfredo Rodriguez, un des artistes invités au Festival Pop Jazz Haïti. Aussi au menu ce dimanche, nos amis et médias partenaires vous proposent un dépaysement total et au rythme du festival Pop Jazz en Haïti et le lancement du Carnaval des Antilles. Aussi, découverte des musiques racines pour se rappeler de l'histoire avec un mouvement culturel et Kanga de la Martinique. Rencontre Rapido Express avec le grand comédien qui a la cote chez les Français en ce moment, Omar Sy, qui a fait le buzz la semaine dernière suite à ses propos lors du lancement de son film « Les Tirailleurs ». Un film qui remet la pendule à l'heure sur la contribution des soldats africains lors de la Première Guerre mondiale. Un entretien avec Omar Sy vers 12h35 à ne pas manquer. Le Quai d'Orsay embarrassé par des accusations de harcèlement au consulat général de Toronto. Une affaire qui choque beaucoup de Français, Françaises, membres de la radio. Et selon une enquête récente, les salles de nouvelles au Canada affichent un piètre bilan en matière de diversité. À qui la faute? On en parle. Élections partielles à Toronto, élections scolaires, et oui, il y en aura finalement 7 lieux pour voter pendant 3 jours ce mois-ci, soit du samedi 21 au lundi 23 janvier. Tous les détails sur notre site web popourichaud.com. Crise dans les maisons d'édition malgré les ventes records. Pourquoi les auteurs, les éditeurs, les maisons d'édition restent toujours précaires? Certains éditeurs tirent la sonnette d'alarme. On en parle dans le magazine La Librairie Francophone de France Inter avec Emmanuel Kérad. Nostalgie hommage pour nos amis les Français de l'étranger. Petit hommage à France Gall, l'une des plus grandes artistes de la variété française qui a bercé ma jeunesse et qui compte un nombre incalculable de tubes. Eh oui, elle est décédée le 7 janvier 2018. La France, cet étrange pays qui a perdu sa joie de vivre. Pourquoi les Parisiens quittent-ils Paris? On en parle. Et le groupe québécois Les Cowboys Fringants continue à nous surprendre. Ils ont fait salle comble le 6 janvier dernier au Centre Bell. Nous entendrons un extrait après le magazine L'Accent des Autres, qui nous propose aujourd'hui une édition spéciale consacrée au prix du journalisme radio des médias francophones publics. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. Allez, place au magazine L'Accent des Autres. Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Eh oui, ça fait 36 ans aujourd'hui. C'est un anniversaire à célébrer en grande pompe.
Bienvenue dans cette édition spéciale de L'Accent des Autres, le rendez-vous hebdomadaire des rédactions des médias francophones publics, une édition consacrée au prix du journalisme des MFP qui a couronné la RTS cette année. Nous retrouverons la lauréate Maureen Mercier après la diffusion d'un extrait du témoignage douloureux d'Ekaterina, cette mère ukrainienne qui, pour protéger sa fille, a fini par céder aux soldats russes qui occupaient Boutcha. Et puis nous écouterons également les témoignages de survivants des pensionnats pour autochtones au Canada, des personnes brisées plus de 60 ans après, deux des meilleurs documents soumis cette année au prix du journalisme des médias francophones publics. Un prix que vous décernez, vous, notre public, au début du mois de décembre. Vous étiez 20 en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, et puis aussi dans le reste de la francophonie, grâce à Radio France Internationale, 100 auditrices et auditeurs au total, donc, qui ont désigné leurs favoris parmi les propositions des 5 radios francophones publiques. Et vous avez choisi un sujet difficile. L'horreur que des femmes et des filles ont subie à Boutcha, en Ukraine, sous occupation russe. Une mère a accepté de briser le silence, accordant sa confiance à Maureen Mercier pour que le monde sache de quoi ces soldats étaient capables pendant 2 semaines et demie. Et Ekaterina s'est fait violer tous les jours, plusieurs fois par jour.
Il me reprochait de ne pas avoir suffisamment peur. Il me disait, tu penses vraiment qu'on ne va pas violer ta fille alors qu'on viole d'autres enfants, filles et garçons? Et moi, je tentais de les implorer en leur disant, oui, j'ai peur, mais on peut être amis. Nous faisions partie d'un seul pays, l'Union soviétique. Ils disaient que leur vie était horrible là où ils habitent. Alors je leur disais, vous pourrez revenir ici. Mais maintenant, ne touchez à personne, cessez de tuer. J'essayais de leur parler ainsi. Parfois, cela marchait. Et puis tout à coup, leur regard tournait. Et ils redevenaient fous d'un coup. Ils étaient totalement imprévisibles. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on n'avait pas devant nous des soldats, mais des gens échappés de l'hôpital psychiatrique, qu'on leur avait donné des armes et envoyé faire la guerre. Ils ne sont pas normaux.
La mère décrit ces militaires systématiquement ivres et qui pillaient du haschich dans les maisons, qui tiraient sur le portail pour signaler qu'ils arrivaient chez elle, et qui restaient des heures durant dans sa cour à se balancer comme des pendules après l'avoir violée. Sa fille n'a pas échappé non plus à cette torture psychologique.
Un jour, ils m'ont fait rentrer dans la petite cour de mes voisins. Et le militaire m'a dit, regarde, c'est ce que j'ai fait ce matin. C'est la femme que j'ai tuée. Il y avait du sang qui coulait de sa bouche. J'ai attendu qu'elle souffre avant de l'achever. Je lui ai dit, vous avez vraiment fait ça? Et il m'a répondu, oui, j'aime tuer, ça m'excite. Il avait 18 ans, 5 ans de plus que moi.
Ils nous ont montré leurs lunettes de vision nocturne. On a compris qu'ils voyaient exactement sur qui ils tiraient, qu'ils savaient ce qu'ils faisaient quand ils tuaient des civils. Il y a un soldat qui nous disait, ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme, c'est de la torture psychologique. Comme ça, votre président Zelensky va finir par comprendre. Qui on est.
Cette mère et sa fille décrivent des militaires très jeunes, entre 18 et 25 ans. Salaire mensuel, selon ces soldats, l'équivalent de 250 francs par mois. Selon le récit de ces femmes, ils venaient des régions de l'intérieur de la Russie. Ekaterina.
Ils mettaient des préservatifs, ils les avaient volés dans des magasins. Ils pillaient tout, des gadgets, tout. Ils venaient de Yakoutie et des régions encore plus loin. Pour eux, nos magasins, c'était le paradis. Les préservatifs, je ne suis pas sûre qu'ils en avaient vu avant. Ils trouvaient cela incroyable. Ils venaient du fond de la Russie, Oulan-Udé, Vladivostok, encore plus loin, où la vie est terriblement dure. Je crois qu'ils ont choisi volontairement ces jeunes. Ils étaient épatés partout, même par nos maisons.
À ceux qui murmurent, ces hommes du quartier qui parfois laissent entendre qu'elle aurait pu peut-être éviter ce qui lui est arrivé, voilà ce qu'elle réplique.
Ceux qui ont essayé de résister sont morts, ou ils ont été obligés de voir leurs enfants se faire violer sous leurs yeux. J'ai regardé ces hommes droit dans les yeux, ils étaient ivres morts et fous. J'ai compris ce que je devais faire.
Cette mère conclut en disant « Je crois, mais je ne suis pas sûre que nous ayons survécu ».
Oui, pas facile de reprendre après ce témoignage le document de Maureen Mercier. Maureen, que j'ai pu joindre à Kiev, elle nous raconte comment elle a abordé Ekaterina.
Je crois que j'ai pu la convaincre uniquement parce que j'ai pris le temps. Je suis allée à Boutcha sur des jours et des jours et des jours et des jours inlassablement. Après avoir recueilli son témoignage, je lui ai donné le temps de changer d'avis. Je voulais absolument pouvoir lui donner l'occasion de me dire « Ben non, finalement, voilà, je t'ai dit tout ça, mais j'ai pas envie que ce soit diffusé, c'est trop dangereux. Si les Russes reviennent, je risque ma vie. » Je voulais vraiment lui laisser ce temps-là parce que à Boutcha, à ce moment-là, on a affaire à des gens qui sont au-delà de traumatisés. Donc je pense que c'est compliqué de leur demander de décider tout de suite de livrer des témoignages pareils. Donc voilà, je pense que le secret, ça a été le temps. Et puis franchement, le secret, ça a été son courage. Moi, j'étais là, mais c'est elle qui a eu le courage.
Maureen, vous êtes notre correspondante en Ukraine. Comment est-ce qu'on se blinde face à de tels témoignages?
Ah, moi, j'ai pas du tout la prétention de me blinder. D'abord, ce serait vraiment mentir de dire que ça m'a pas chamboulé. C'est un témoignage, il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est vraiment un témoignage qui m'a plaqué au sol. J'y pense, très honnêtement, il me hante, mais on n'est pas là pour parler de nous. On est là pour faire notre travail, et puis notre travail, c'est encore une fois d'essayer d'être à la hauteur du courage de ces gens qui subissent des choses absolument insensées, qu'ils soient en Ukraine ou ailleurs, d'ailleurs.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Radio-Canada a obtenu la deuxième place dans le cœur des auditrices et auditeurs. Le Canada, où plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Métis et Inuits, ont été pris de force à leur famille et envoyés dans des pensionnats gérés par l'Église jusqu'à la fin du siècle dernier. Avec des sévices sexuels à la clé, il a fallu attendre le début des années 2000 pour que l'omerta soit levée peu à peu. En amont de la visite du pape en juillet, Marie-Laure Josselin avait réuni des survivants de ces pensionnats pour autochtones. Extrait.
En ce dimanche soir, les mouchoirs en papier gorgés de larmes s'empilent sur la table pendant qu'Yvette Michel parle. Parle. Longtemps.
J'ai 75 ans. Je me pose encore des questions.
Elle, qui est entrée avec sa belle robe, ses rubans, ses tresses bien nouées au pensionnat à 7 ans.
Je trouve ça dur parce que c'est pas une vie de ça que je rêvais.
Elle ferme les yeux, se remémorant chaque moment vécu au pensionnat.
Je voulais être invisible pour me protéger, mais...
Pourtant, Yvette la discrète dit s'en être malgré tout plutôt mieux sortie que d'autres du pensionnat. Comprendre, pas de viol. Sauf que les survivants savent bien que les agressions et les mauvais traitements ne se sont pas limités aux quatre murs des pensionnats.
Après ça, vers les 16 ans, j'ai vécu des viols. C'était des violés de l'autre école.
C'est des gens qui ont été violés dans les pensionnats.
Ouais.
Il y a des dommages collatéraux là-dessus. Parce que les autres, ils ont reproduit après quand ils sont sortis du pensionnat. Mm-hmm. Exemple, je vais donner de mon frère. Il m'a abusé plusieurs fois chez nous. C'est pas juste lui. C'est des ex-pensionnaires, trois gars. Ça a été dur, ça, encore.
Et quand ce n'était pas eux, pour Jeannette Volant ou sa sœur Céline Volant-Bellefleur, c'était le prêtre dans la communauté.
Fait que là, il me prend, là, comme ça, là.
Qui il?
Le père a prolongé. Il a abusé de moi. Là, j'ai arrêté d'aller à l'église, moi, là. Et c'est là que j'ai commencé une vie de débauche.
C'est son métier d'enseignante qui a sauvé Céline. Yvette a suivi, comme beaucoup d'autres, le même chemin, perdu dans la vie, les substances comme refuge et des enfants qu'elle n'a pas su élever dans l'amour.
Il est presque impossible de retrouver une belle vie après être sortie du pensionnat. On n'a jamais la paix dans son cœur. Merci de m'avoir écouté. Et là, comment je vais faire ça, moi, pour dire ça au pape? Merci.
Est-ce que vous voulez voir le pape ou vous voulez que le pape vous voie?
Que le pape nous voie.
Puis Jeannette Volant se lève et approche sa main de mon cœur.
Puis qu'il parle avec son cœur, qu'il dise, oui, c'est vrai. Moi, je voudrais être en avant de lui, puis toucher son cœur. Je veux entendre ton cœur dire à mon peuple, pardon. Pardon de vous avoir fait du mal pendant des années par tous les prêtres, les frères et les religieuses. C'est ça que je veux entendre. Pardon.
Jeannette qui attend donc que le pape lui demande pardon. Marie-Laure Josselin, le pape est venu après votre reportage. Est-ce qu'il a donné satisfaction à Jeannette?
Jeannette n'a finalement pas pu aller voir le pape pour des problèmes de santé, mais effectivement, il a demandé pardon, pardon aussi pour les agressions sexuelles. Donc c'est quelque chose qui a été un moment marquant, je vous dirais, pour mes survivants que j'ai rencontrés, même si c'est clair que pour eux, ce n'était qu'un début dans leur cheminement de guérison. Par exemple, Céline aussi, qui raconte l'agression d'un prêtre. Ses enfants ont appris par le reportage qu'elle avait été violée par un prêtre. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de tabous qui doivent être levés. La venue du pape, c'est aussi à ça que ça a contribué.
Et justement, ces blessures qui sont encore largement ouvertes aujourd'hui, on l'entend dans le reportage, ça s'explique justement d'abord par l'incapacité du Canada, de la société canadienne, des autorités politiques à gérer ce passé.
Ça a été surtout à le taire pendant très longtemps, à ne pas le reconnaître, à ne pas reconnaître les abus. Il y a un an et demi à peu près, il y a eu une découverte de ce qu'on suppose être des sépultures d'enfants près d'un pensionnat pour autochtones vers Vancouver. Et là, ça a été vraiment un choc. Un choc complet pour la société canadienne. Et ce choc-là a permis aussi de libérer la parole, un peu comme l'avenue du pape. Une dame m'a raconté qu'elle regardait un documentaire avec sa fille et que sa fille disait « Ah, est-ce que c'est vrai, maman, ce qui s'est passé ?» Et sa mère a dit « J'étais un de ses enfants. » Et sa fille s'est retournée et a dit « Maintenant, je comprends. » Parce que beaucoup se sont noyés dans l'alcool, dans la drogue, pour essayer de panser ses blessures, pour essayer de comprendre pourquoi finalement le fait d'être qui ils étaient, autochtones, en est arrivé à ce qu'ils sont devenus maintenant, c'est-à-dire des adultes, je vous dirais, broyés pour beaucoup.
Marie-Laure Josselin de Radio-Canada, merci de votre attention. La semaine prochaine, nous retrouvons l'accent des autres dans sa forme habituelle. Bonne semaine à vous.
France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos. Témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifié par les journalistes de France 24 et publié sur notre site. Les observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les observateurs, ce sont eux, c'est lui. C'est elle. Et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.
Sous prétexte qu'on évolue, on le bien con et on se range, triste vérité qui nous tue. Mais rappelle-toi de la lueur, nos rêves à contre-courant, pour faire quelque chose de meilleur, enfin on y croyait vraiment. Ce qu'on a fait de nous, pourtant on s'aimait. Bye bye nous, je retourne demain. Là où se sont séparés nos chemins. Hey! Se torture avec une poignée de combat sous la pluie froide. Ce couloir et les règles ont envoyé l'anti-meute et des policiers sur leur rail pour contrôler la rue. On se connaît les beaux soldats contre les OGM. Quand soudain ils sont débarqués, des super un peu extrémistes. Soudain les gens cagoulés se proclamant activistes. Comme les petits chiens et la main, ils ont péché le gros pétard. Les deux sont entrés dans la vie, je jure qu'il y a. cul avec une poignée de compas sous la pluie.
Cette année, Ciné Franco célèbre ses 25 ans. Le cinéma francophone local, national, international et ses artisans sont au cœur de nombreuses activités menées au long de l'année par Ciné Franco. Parmi les rendez-vous les plus populaires, le Festival Grand Public, le plus important festival de films francophones du Canada anglophone. Il se compose d'une quarantaine de films provenant de divers pays, tels que la France, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, et rassemble chaque année des milliers de passionnés. Le programme jeunesse exclusivement dédié aux élèves et à leurs enseignants. La fête du cinéma québécois contemporain grâce au partenariat avec la tournée Québec Cinéma. Et je vous rappelle que tous les films sont sous-titrés, une occasion exceptionnelle pour se familiariser à la langue française et les cultures francophones. Ciné Franco entretient une étroite collaboration avec les acteurs locaux de la francophonie. Il est également très présent sur les médias sociaux, particulièrement sur Facebook et Twitter, pour permettre à tous ses fans de rester en lien avec l'actualité cinématographique francophone. Ciné Franco, 25 ans, ça se fête tout au long de l'année en ligne et en salle. Restez branchés à CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Ciné Franco est le plus important festival international de films francophones du Canada, fondé en 1997 par Marcel Lynn et devenu l'organisme phare du 7e art qui relie un modèle de pratique artistique au sein de la francophonie. Pour tout renseignement sur Ciné Franco, consultez le site web au cinéfranco.com ou par courriel info@cinéfranco.com. Popourri Show, CUT 89,5 FM, 35 ans déjà. Ciné Franco, 25 ans pour l'amour du cinéma.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, à l'échec de la conférence sur le climat, la COP27, qui n'a pas réussi à proposer de nouveaux engagements pour faire baisser les gaz à effet de serre et passer par là, face à l'inertie, les militants écologistes se radicalisent. Opération soupe ou purée sur des œuvres d'art dans les musées, blocage du trafic en se collant au macadam ou même recours en justice contre l'inaction des États, la désobéissance civile embrasse de multiples voies. En Allemagne, l'association Letzte Generation fait parler d'elle par tous les moyens. Salomé et Noncorin les a suivis quelques jours dans leurs actions.
Accent d'Europe sur CUT 89,5 FM. Pour mieux comprendre l'actualité et les évolutions du monde, retrouvez tous les aspects de la vie quotidienne des Européens avec les correspondants de RFI. Accent d'Europe, des thématiques pour mieux comprendre l'Europe et les Européens. Chaque dimanche de 11h à 13h sur Popourri Show, CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto.
Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales. On s'en va.
On va où, maman?
Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars. C'est parti!
Mais j'ai oublié mon doudou.
Jade, c'est pas grave, ma chérie. Tu ramèneras un martien.
Futuroscope. Toutes les forces d'attraction.
Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
À peine il est légère quand le gazon est vert, quand le gazon est vert, je vois tout à l'envers. J'en fais pas un supplice, j'en fais pas un supplice tant que j'ai le bon tournevis. Moi je lis comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles d'été. Je file dans les jours la guitare à l'envers. Puis je flamme dans un lit en écoutant la pluie. Et le temps passe. Et le temps passe. Ma peine est légère, loin de tous mes travers, loin de tous mes travers, et je sors de l'hiver. Du pied dans la bise, je vis sans artifice, sans but et sans malice, tant que l'air est gratis. Je ris comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles de l'été. je file dans les jours, la guitare à l'envers. Puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie et le temps passe. Et le temps passe. Des fois je déjoue et des fois je délaisse. Et souvent je lousse la laisse. Et le temps passé des fois me dépasse et me perd dans l'espace. Et des fois
francophone public.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après ces émissions spéciales pour les fêtes qui vous ont beaucoup fait réagir et que l'on peut écouter en podcast, balado diffusion, on vous présente tous nos vœux pour 2023 et on célèbre cette nouvelle année avec l'événement de cette rentrée littéraire de janvier. Voici le sommaire de cette émission.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
C'est une saga qui a passionné des millions de lecteurs pendant presque 40 ans. Les Malocènes tirent leur révérence dans un ultime épisode. Daniel Pénac, le créateur de cette histoire qui a généré le goût de la lecture pour beaucoup de jeunes et moins jeunes, est sur notre plateau. Nous vous emmènerons dans le quartier italien de Montréal pour un reportage avec la nutritionniste Vanessa Perrone qui valorise la culture saine méditerranéenne pour le bien de notre santé. Et puis en ce début d'année, aux finances restreintes, nous vous conseillerons des livres de poche pour tous les budgets, avec notamment Amélie Nothomb et Édouard Baird. Et nous commençons cette émission avec l'actualité francophone de la semaine. C'est bien sûr la rentrée littéraire de janvier, avec 517 nouveaux romans et il y a des inquiétudes économiques chez les libraires. On va rejoindre le président de Libraires Ensemble, qui fédère 49 librairies indépendantes en France et en Outre-mer. Bonjour Olivier Roire.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez donc ces 49 librairies, des petites et des grandes, voire des très grandes, mais toutes indépendantes. Alors le prix a commencé à augmenter légèrement, aux alentours de 5%. L'inquiétude est vive, paraît-il. Qu'attendez-vous pour 2023 dans ce domaine, vous Olivier ?
Alors effectivement, nous constatons une hausse des prix des livres qui était très stable jusqu'à présent. L'inquiétude est double. La première, de créer un sentiment de un petit peu de confusion chez les lecteurs avec ces changements de prix intempestif, et d'autre part, un prix moyen qui va augmenter, rendant la lecture un peu moins accessible.
Alors, les 5% pour l'instant, on vous a annoncé d'autres augmentations, d'autres hausses au cours de l'année ou pas encore ? C'est flou ?
Alors, sur la fin de l'année, on a constaté sur les beaux livres des hausses jusqu'à 5 euros. Là, sur les livres de poche, presque 1 euro, ce qui est largement plus que les 5%
moyens. Ah oui, là, on est à 10-15. Ouais.
Moyen. Mmh. Alors que sur les grands formats, effectivement, on est plutôt sur 1 euro, qui est plus acceptable.
Alors si les grands éditeurs français augmentent le prix du livre, cela aura un impact dans tous les pays francophones. Auprès des autres éditeurs, évidemment, ça va s'aligner avec la monnaie du pays concerné, mais la librairie aussi va être concernée. À savoir que certains disent que la fréquentation librairie peut baisser. Vous y croyez en cela, Olivier Roy ?
Non, je pense que le prix n'influera pas sur la fréquentation de la librairie en tant que lieu culturel, hein, qui est vraiment poussé par les coups de cœur des libraires, par les sorties éditoriales. Donc ça peut freiner effectivement les achats, mais moins la fréquentation.
Alors les coups de cœur des libraires, c'est important effectivement. Olivier, parlons culture quand même sur les nouveautés de cette rentrée littéraire. Quels sont les événements attendus ? Quels livres, quels auteurs pour vous à Libraires Ensemble ?
Alors chez Libre Ensemble, il y a bien sûr les grands attendus de la rentrée de janvier. Vous avez cité votre invité Daniel Pénac avec le Terminus Malocène, qui est effectivement le grand attendu de ce mois de janvier. Mais on a également un Pierre Lemaître, Le silence et la colère, pour le 10 janvier, qui sortira bientôt.
Deuxième Philippe volume Claudel, de la saga, hein, d'ailleurs.
Tout à fait. Ensuite, Philippe Claudel avec Crépuscule, qui est également très attendu. Et puis dans les coups de cœur libraires, un nouveau petit livre très personnel de Jérôme Garcin, Aimé Fragile.
Oui.
Qui est également un petit prix, un 14
exact.
Euros, on peut le citer.
Oui, à noter,
ainsi
effectivement.
Qu'un beau titre de Laurence Cossé, Le secret de Sibylle.
Mm-hmm.
Là aussi, avec un prix abordable à 16 euros. Je vous invite à découvrir.
Voilà, Laurence Cossé, Jérôme Garcin, effectivement, j'ai vu passer ses livres, il faut s'y intéresser de près. Véronique Ovalde aussi qui fait son retour chez les femmes. Parce que vous avez cité très peu de femmes à part Laurence. Mais voilà, Véronique Ovalde aussi.
Mais Véronique Ovalde, chouchoute de nos librairies, est également aussi très attendue.
Oui, chez vous dans le sud de la France, notamment chez Charlemagne. Merci beaucoup Olivier Roire, tous nos voeux pour Libraire Ensemble, bon week-end et bon début d'année à vous.
Merci Emmanuel, bonne année et longue vie à la librairie francophone.
Merci. Et voici les libraires justement de la librairie francophone. En Suisse, on retrouve Annick Vermeaux, libraire à Martigny dans la librairie Zalactoré. Bonjour Annick.
Un grand bonjour neigeux de la Suisse.
Et la neige, oui, qui s'installe avec l'hiver. Bonjour neigeux, merci. En Belgique, on retrouve Déborah Damblon de la librairie du Théâtre Le Public. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Pas de neige, non, à Bruxelles.
Pour un bonjour pluvieux, bien sûr.
Bruxelles, quoi.
Bruxelles oblige.
Bruxelles, je t'aime. En France, c'est Thomas Auxerre de la librairie Lamandier, plutôt, du côté de la Défense. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Comment ça va?
Oh, ça va très bien, ça va même... plutôt bien.
Ça va plutôt bien. C'est notre blague habituelle, ça fait rire Daniel Pénac. Mike Viennot représente le Canada, libraire à Montréal, dans la librairie Monet. Bonjour Mike, en pleine forme Mike.
C'est des oui, très en forme. Bonne année Emmanuel.
Bonne année à vous, bonne année à tous. Merci d'être avec nous, vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission. Avant de conclure, le son de l'outre-mer avec un duo guyanais qui rassemble Guy Rémy et Justin Demille. C'était le duo guyanais Guy Rémy et Justin Demille avec Momete Momi, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. On vous souhaite la meilleure année 2023 possible. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un petit texte qui vous est dédié avec mes vœux sur mon compte Facebook. Bonne année à vous, Daniel Pénac. Je vous ai même pas dit bonne année.
Bonne année à
le
tous.
Meilleur pour vous en 2023. À la réalisation, David Leprince avec le grand Fabrice Desmaz. À la rédaction, Jean-Philippe Véret, Alice Rouet et Christophe Magère de France Inter. Avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, Lydie Salvaire, le chanteur Raphaël pour son premier roman et un premier roman en Suisse avec Isabelle Garcia Gomez. Bonne semaine, bon week-end.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adra bella cosa, ding et dong.
Non,
écoutez la planète chanter.
festival Pap Jazz, 16e édition, au Cap Haïtien, du 20 au 21 janvier. Cette 16e édition est dédiée à Toussaint l'Ouverture. Et là, nous entendons Joey Omisil, souffleur polyinstrumentiste qui ne ressemble à personne. D'origine haïtienne, né à Montréal et désormais basé à Paris. Il a enregistré son premier disque international dans le sud de la France, une semaine de pleine lune au cours d'une session fleuve avec une dizaine de militants du Groove. Un artiste que nous recevrons dimanche prochain à notre antenne. Joey Omisil. Et oui, et maintenant, un petit hommage à une grande voix française, France Gall. Le 7 janvier 2018, la voix des sucettes de Résiste et de Bacar se taisait à jamais, France Gall. Et de ces personnalités qui ont fortement marqué leur époque et continuent à le faire. La Parisienne qui prit son envol dans les 60s pour rester sur le devant de la scène, pendant plusieurs décennies a laissé de nombreuses chansons populaires, toujours autant diffusées à la radio et revisitées par la jeune génération. Eh oui, CUT 89,5 FM, Popourri Show, 36 ans, aujourd'hui, eh oui, 15 janvier 2023. Bonne fête, CUT FM, la radio comme je l'aime.
Let's 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Eh oui, Popouri Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourishow.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Une première à Toronto, Ménage à Trois, un spectacle de drag queen hilarant, du jamais vu. Eh oui, avec DJ sophistiqué, looks flamboyants, écran géant, chorégraphie bien rodée, rythme pop endiablé, avec trois drag queens une fois par mois au Drink Cocktail and Pizza Bar sur la rue Church. Inscrivez-vous à notre infolettre à popourri@cut.fm et courez la chance de gagner un coupon cadeau de 25$ gracieuseté de Drink Cocktail and Pizza Bar sur la rue Church au sud de la rue Maitland. Un endroit caché, oui, au deuxième étage de la rue Church, au cœur du village gay. Ménage à trois, trois drag queens, une soirée en français, une fois par mois, une première à Toronto. Retrouvez les dates des prochains spectacles sur popourishow.com. C'est UT 89,5 FM et Pau pour Ruisseau, 35 ans de fierté.
C'est la loi, c'est la règle, l'usage selon Grévis depuis l'école, depuis un siècle, il régente le genre. Écoutez, l'adjectif qui qualifie plusieurs noms de genres différents s'accorde automatiquement au masculin. Ainsi, les hommes et les femmes sont beaux selon le bon usage. L'adjectif se met donc au genre indifférencié, c'est-à-dire au masculin. Sacré Maurice.
De vive voix, un magazine de Radio France Internationale, présenté par Pascal Paradou. Une émission consacrée à la langue française dans le monde et aux cultures orales que vous retrouverez dans Pot pourri chaud les dimanches de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. De vive voix, une vitrine des initiatives en faveur de la francophonie, consacrée à la langue écrite qui vit, s'adapte, se développe, mais aussi une émission où la langue parlée, blablaté, tchatché, déclamé et murmuré aura toute sa place. En compagnie d'historiens, linguistes, traducteurs, artistes. On vous y attend chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM pour mieux comprendre l'actualité et les évolutions du monde. Et oui, laissez-vous tenter, préparez-vous, madame, monsieur, pour un mois de mars, un mois de la francophonie, au rythme du groupe mythique La Compagnie Créole, le 28 mars 2023, à l'Auditorium Saint-Frère-André, à 19h30, un concert unique, un événement de francophonie en fait. Tirage au sort, des billets, retrouvez les détails sur popourichaud.com. Et merci à Francophonie en fait et tous nos partenaires qui nous soutiennent. Une belle année à tous, et oui, et que la force soit avec vous.
Jazz it up. Come on, girl.
Oui, c'était le générique du grand festival Pap Jazz qui se tiendra au Cap Haïtien les 20 et 21 janvier prochains. Après tant d'hésitations dues au climat d'insécurité dans ce pays en ce moment. Je rappelle que Radio France Internationale sera sur place et vous présentera les artistes invités. En attendant, je vous invite à retrouver la belle affiche de ce grand festival de jazz Pap Jazz sur la page Facebook de Pap Jazz ou encore popourichaud.com. Bienvenue, mesdames, messieurs, à Pot pourri chaud sur CUT 89,5 FM. CUT FM, la radio de l'Université de Toronto, qui fête ses 36 ans d'existence aujourd'hui. Et oui, merci de tout cœur de votre fidélité. Et bravo à tous les gagnants des billets du film Saint-Omer au TIFF Bell Lightbox dès le 20 janvier. Du flamenco jazz, comme on les aime, au festival Pap Jazz Cap Haïtien cette semaine. Et là, nous entendons la brillante Maria Toro, l'une des rares flûtistes de jazz féminine et flamenco, avec deux albums à son actif. Elle a joué un peu partout dans le monde, notamment à New York avec de grands artistes de jazz américains. Le mélange d'influences caractérise la musique de Maria Toro, désormais domiciliée à Madrid, qui ne cesse d'explorer les sons de sa flûte. Ah, laissez-vous bercer, envoûter par la flûte de la belle Maria Toro au Pap Jazz, en direct sur la page Facebook de Pap Jazz ou encore RFI, qui sera sur place du 18 au 20 janvier, de la ville du Cap Haïtien. RFI est déjà sur place. Et oui, c'est confirmé. Je souhaite de tout cœur qu'il ne se passe aucun incident. Bienvenue à Toronto, la ville la plus multiculturelle du monde. Pendant plus de deux siècles, elle a accueilli de grandes vagues d'immigration venues d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique. Résultat, la moitié des Torontois est née à l'étranger. Nous sommes entre 150 à 200 000 francophones et francophiles de diverses origines vivant à Toronto. Cependant, l'équité en matière d'emploi n'est toujours pas la priorité des employeurs francophones. La ville de Toronto publie ses informations pratiques en 30 langues, mais les francophones ont encore du mal à se faire entendre et être pris au sérieux. La polémique autour des bureaux de vote de l'élection partielle des conseils scolaires en est la preuve. Il y aura finalement, 7 lieux pour voter pendant 3 jours ce mois-ci, du samedi 21 au lundi 23 janvier. Vous pourrez donc voter pendant 3 jours dans des centres communautaires près de Trinity Bellwoods, Regent Park et East York. Prévoyez de vous déplacer, c'est important. Vous retrouverez les infos et liens sur popourishow.com. Une nouvelle qui a fait le buzz chez les professionnels francophones au Canada cette semaine. Une enquête récente portant sur la diversité dans les salles de nouvelles au Canada suggère que les entreprises de presse ont un long chemin à parcourir si elles souhaitent diversifier les équipes rédactionnelles, en particulier en ce qui concerne les postes de direction, et ce à temps plein. Après plus de 40 ans en tant qu'ancien agent d'éducation de la Commission de l'équité en matière d'emploi, je suis extrêmement déçu de cette situation, et oui, mais cela ne me surprend pas, car malheureusement, il n'y a pas un organisme fort et solide pour défendre les droits des francophones issus de la diversité francophone au Canada. Dommage. En entendant, comme on dit, ce fameux proverbe, « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Vous retrouverez le lien de cette nouvelle sur notre site popourishow.com. Et petit rappel, Omar Sy, couronné chouchou des Français en 2022, l'acteur vedette des Intouchables. Et de son dernier film, Les Tirailleurs, ces soldats africains de la Première Guerre mondiale, souvent oubliés par le gouvernement français, fait polémique en France. Et oui, il sera des nôtres vers 12h35 pour mettre la pendule à l'heure. Rapidement, la prochaine conférence de la Société d'Histoire de Toronto se déroulera en ligne le jeudi 19 janvier 2023 à 19h sous le thème « La Maison de la francophonie de Toronto ». Où en est-on? Où en sommes-nous? Eh oui, un projet en mouvement depuis plus de 40 ans. Le conférencier sera Kip Daschle, président fondateur de la Maison de la francophonie de Toronto. La Maison de la francophonie, je vous rappelle, est un vieux rêve des francophones et francophiles de la ville reine. Vous retrouverez tous les liens. Eh oui, il faut vous inscrire absolument sur sht.ca pour la Société d'Histoire de Toronto ou encore popourishow.com. L'ancien gouverneur du Canada et secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, faisait partie des dizaines de signataires de haut niveau d'une lettre ouverte la semaine dernière ayant pour titre « Prise en otage, Haïti se meurt » qui affirmait qu'Haïti est en train de mourir et a besoin d'une aide internationale pour éviter de devenir un État en faillite. Retrouvez le lien de cette lettre sur notre site web. Et avant de passer au journal d'Haïti, je vous ferai découvrir en exclusivité le dernier titre d'un groupe un peu révolutionnaire que j'aime beaucoup, Mouvement Kiltirel Ekanga de la Martinique, la belle ville, la belle île, je dis bien. Et oui, un bonjour spécial d'ailleurs à tous les auditeurs, auditrices de la Guadeloupe, de la Martinique et d'Haïti. Ils sont nombreux à nous suivre chaque dimanche. Merci d'être là. Popourri Show et CUT 89,5 FM, 36 ans aujourd'hui, à la ville ou à la campagne et partout dans le monde, grâce à www.cut.fm. Merci à tous nos donateurs, donatrices. Que la force soit avec vous. Allez, place à Radio France Internationale et le journal d'Haïti et des Amériques.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Il est 10h10 à Brasilia. Le Brésil, au lendemain de l'assaut donné par les pro-Bolsonaro sur les lieux de pouvoir de la capitale, on décrypte avec notre invité tout un symbole. Haïti ne compte plus à partir d'aujourd'hui d'élus représentants élus sur le plan national. On parlera immigration aussi puisque Joe Biden est au Mexique pour évoquer le sujet avec Alex Léveillé dans le journal de la première. Nous irons en Guyane. Bienvenue à tous.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
8h23 en Haïti, son pronostic vital n'est pas engagé selon les informations de nos confrères du Nouvelliste. Le président du Sénat haïtien Joseph Lambert a été victime hier dimanche d'une attaque à main armée à Port-au-Prince. Attaque survenue à la veille, ce lundi, de la fin du mandat de Joseph Lambert, mais aussi des 9 autres sénateurs restant encore en poste, hein, faute d'élection pour les remplacer, mais pour remplacer aussi toutes les autres institutions démocratiques. Eh bien, Haïti ne compte aujourd'hui plus aucun représentant élu sur le plan national, Amélie Baron.
Cette fin de législature est somme toute symbolique, car dans les faits, le pouvoir législatif d'Haïti était totalement dysfonctionnel depuis 3 ans, quand l'ensemble des députés et 2/3 des sénateurs ont quitté leur poste sans successeur élu pour les remplacer. Après les élections de 2016 qui l'ont porté au pouvoir, le président Jovenel Moïse n'avait pas organisé un seul scrutin et son assassinat en juillet 2021 a plongé davantage le pays dans la crise. Sans président, député ni sénateur, c'est le premier ministre Ariel Henry qui gère les affaires, non sans être largement contesté dans sa légitimité. Rappelons qu'il n'avait été nommé que 48 heures seulement avant l'attentat qui a coûté la vie au chef de l'État. Aucun texte de loi ne prévoit la vacance à la fois du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et la classe politique est à couteau tiré, incapable de s'entendre sur un compromis. Un point sur lequel tous s'entendent, rétablir la sécurité avant d'organiser un vote. Les gangs qui contrôlent aujourd'hui plus de 60% du territoire seront à prendre en compte dans l'équation élection, car ils disposent d'une large manne financière, amassée notamment via les rançons des enlèvements qu'ils commettent quotidiennement.
Une guerre plus qu'un triste symbole, vous disiez Amélie, c'est aussi l'avis de Gédéon Jean, directeur exécutif du CARD, Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, ONG haïtienne que j'ai interrogé.
En fait, on est sorti du processus démocratique et de l'état de droit depuis le 13 janvier 2020, où le mandat de la Chambre des députés était arrivé à échéance, et 2/3 du Sénat également, alors que les élections n'avaient pas eu lieu pour les remplacer. Donc depuis lors, le Parlement, un des 3 pouvoirs, formant l'État, est dysfonctionnel. Donc ces 10 sénateurs sur 30 dont le mandat est arrivé à terme aujourd'hui ne pouvaient prendre aucune décision sinon toucher leur emolument, etc. Donc ce qui est évident, ce qui est clair, on est dans une situation exceptionnelle avec un exécutif monocéphale, c'est-à-dire un premier ministre qui en réalité exerce la double fonction d'exécutif. Donc c'est une situation anormale au regard des principes démocratiques, au regard des principes de l'état du droit.
Et quelles conséquences, Gédéon Jean, cela, ça, pour les Haïtiens eux-mêmes?
Bon, au plan institutionnel, ça affecte le fonctionnement régulier des institutions. Et en termes de droits humains, mais ça affecte la jouissance des droits humains, puisque les Haïtiens ne peuvent pas exercer le droit de vote, le droit de participer aux affaires publiques. On peut parler de régression en Haïti en termes de construction de l'état de droit, en termes de construction de la démocratie.
La solution, s'il y en a une, quelle est-elle? Est-ce que ce sont des élections, comme l'appelle de ses voeux le gouvernement Henry?
La solution, d'abord, il faut résoudre le problème de sécurité. Parce que la priorité de la population actuellement, c'est la sécurité et c'est l'une des conditions essentielles pour organiser les élections. Et le deuxième élément important, c'est de créer les conditions pour la tenue des élections afin que les citoyens puissent choisir librement leurs représentants. Donc ça, c'est un premier niveau. Mais le deuxième niveau, si nous voulons construire véritablement la démocratie en Haïti, il faudra faire les réformes institutionnelles et juridiques nécessaires. C'est besoin d'un changement de paradigme au niveau de la coopération internationale, puisque l'échec haïtien est partagé.
Gédéon Jean du CARD d'Haïti. Merci beaucoup à vous, Alex Léveillé. Merci pour votre concision. Alex Léveillé de La Première. Merci à Claude Battista, qui était à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, à retrouver évidemment sur RFI.fr, notre application RFI Pure Radio et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Les Trophées Énergie 2022. Votez pour le clip de l'année. Goût, Lou City featuring Morane Voyer. Oswald. Kaouvlé, Nico. Kind Love. Rachel Allison et Lou City. Menez-moi loin.
je veux le meilleur pour nous deux.
Miss et Mister, X-Men featuring Janice.
Pas besoin de me demander ma carte bleue. Mon argent, c'est le tien. En vrai, on s'aime, on se le livre pas.
Sans parler, Calypso featuring Wervana.
Je regarde sans parler, nana. Je me regarde sans parler, nana. Je me regarde sans parler, nana.
Yeah. Voilà, ton boulot, Ganache. Jusqu'au 22 janvier 2023. Les trophées Énergie Antilles. Tous les résultats le vendredi 27 janvier 2023. Rendez-vous sur energieantilles.com.
Et Conga!
Monarchie décapitée, français fête révolution, égalité, fraternité, c'est un groupe en liberté qui soufflait depuis la France. Mon mec contre révolté, matcher l'histoire comme une danse.
Pour moi, c'était un affranchi qui tenait toi et l'éligibilité. Mais yo, exproprié de la pirogue pour Polo, la scène y acheter. Si mon plan est c'est contre chien, mon neuf et j'ai ses vieux humains.
Salomon la boule qui même si t'es une affranchie, qui t'es yon bon content, cacabre chouval. Mais la sœur passe, il faut sa pour moi au gosse. Monsieur le bé fâché, t'es que la pouvait rester. Mais tu m'en disais pour faire, mais c'est le lendemain. T'es que la brille en cartel, mais y'a pas beaucoup. Mais la pas bon, ça fait, je t'aime, moitié la boule.
Destination Martinique avec Ekanga, une découverte musicale de la Martinique en exclusivité sur CUT 89,5 FM Toronto. Mais que signifie Ekanga? Ekanga signifie origine en Lingala, langue bantoue au Congo. La philosophie du mouvement qu'il tire à l'Ekanga est l'alliance entre l'Afrique et la Martinique. Ekanga est un mouvement culturel qui propose un concert identitaire à partir de dates mémorielles, de faits historiques et sociétaux de la Martinique. Son objectif est de favoriser la transmission de patrimoine culturel pour l'éveil et la conscience de la survivance du peuple martiniquais dans toute sa diversité. Ekanga est constitué d'artistes, danseurs, chanteurs engagés, d'artistes invités et des musiciens ainsi qu'un ingénieur de son. Plus de 15 titres avec des thématiques abordant l'afrodescendance ainsi que le multiculturalisme de la Martinique. Vous retrouverez toutes les infos et la page Facebook de Ekanga sur notre site popourichaud.com. Sans plus tarder, madame, monsieur, je vous invite à écouter un dernier titre lancé le 7 décembre 2022, en guise de cadeau de Noël sans doute, Nation Matnik, interprété par Vanessa Jalta et Ivy Jalta. Mille merci à Vanessa pour la coordination des infos pour bien préparer cette émission. Nation Matnik avec Mouvement Culturel Ekanga, en exclusivité sur CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde.
son pour j'estime si y'a en place. Même là, la payé cash. Soumission avec assimilation. Profitation avec consommation. Loi signée à résidence. Maltraitance motivée défaillance.
Et oui, Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête tout au long de l'année, en ligne ou en salle. Restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco. Allez sur le site de cinéfranco.com et découvrez la diversité des cultures francophones. Ciné Franco, le plus important festival international de films francophones à Toronto depuis 1997. Soyez-y. Bonne fête à Ciné Franco. Ciao, ciao, ciao.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Le livre du jour et aujourd'hui les éditions Prise de Parole nous proposent une nouvelle expérience littéraire en partenariat avec le magazine culturel Bible Urbaine qui pose 5 questions à un artiste ou un artisan de la culture. La dernière invitée, Véronique Mariquet, une autrice franco-ontarienne au parcours plus qu'étonnant. De garde de sécurité à commis de bureau, d'annonceur de radio à chanteuse d'opéra et plus récemment rédactrice pour un syndicat. Il n'y a pas à dire, c'est une femme très polyvalente que vous vous apprêtez à découvrir. Allez, je vous invite à lire absolument cet entretien hors commun sur bibleurbaine.com ou encore vous retrouverez l'adresse sur notre site popourichaud.com. Dans la peau de Véronique Mariquet, auteur et diptyque Marjorie Chalifou, aux éditions Prise de Parole.ca ou sur bibleurbaine.com. Et enfin, les éditions Prise de Parole vous invitent à Croiser des mots, une rencontre littéraire le mercredi 18 janvier avec l'écrivaine franco-ontarienne André Lasselle au sujet de Dire, son dernier recueil de poésie. Dans ce recueil, en trois parties, André Lasselle revient sur 40 ans de pratique d'écriture, ouvrant une fenêtre sur l'atelier où se construit une œuvre inouïe. Travail fécond sur la mémoire et cet ensemble de textes met en lumière le parcours de la poète et permet d'en apprécier tant la rigueur que la générosité. C'est un rendez-vous avec André Lasselle au sujet de Dire, son dernier recueil de poésie, mercredi 18 janvier à 19h et en ligne. Tous les détails sur la page Facebook de Prise de Parole ou popourichaud.com. Prise de Parole, fidèle partenaire de Popourichaud.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Quoi de neuf ? Les Cafés du Créfou. En partenariat avec Popourichaud et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde ? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Duisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoi de neuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille?
Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre.
Saint-Omer, le premier long métrage de fiction primé de la documentariste acclamée Alice Diop, sortira à travers le Canada à partir du vendredi 20 janvier 2023 et au TIFF Bell Lightbox. Saint-Omer, réalisé par Alice Diop, retrace l'histoire vraie d'une mère infanticide. Mais qu'est-ce qui a fait basculer cette maman à commettre ce crime? Des billets gratuits aux membres de la radio. Alors écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Saint-Omer, dès le 20 janvier, au TIFF Bell Lightbox Toronto. Un film de procès aussi implacable qu'impressionnant. Doublement récompensé à la dernière Mostra de Venise, meilleur long métrage et grand prix du jury. Ce film a été choisi pour représenter la France aux Oscars 2023 et a obtenu le prestigieux prix Jean Vigo 2022 et le Lion du Futur. Saint-Omer d'Alice Diop, un film qui vaut le déplacement. Alors faites vite et courez la chance de gagner vos billets au TIFF Bell Lightbox. Tous les détails sur popourichaud.com. Popourichaud vous souhaite une année riche en films remarquables. Bonne et heureuse année 2023.
Les Trophées Énergie 2022. Votez pour l'artiste de l'année. Morane Voyer. Rachel Alison.
Miss et monsieur, baby, tu sais que je veux le meilleur pour nous deux.
X-Man.
Mon argent, c'est le tien.
Kalash. City. Matthew White.
Baby, pas panique.
Tout ça, bla 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 bla. Et tout ça pour disparaître.
Tikim G.
Pourquoi toujours moi pour remettre en question.
Votez jusqu'au 22 janvier 2023. Les trophées Énergie Antilles. Tous les résultats le vendredi 27 janvier 2023. Rendez-vous sur energieantilles.com.
Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français.
En position,
plusieurs de mes capots sont tombés, j'aimerais que vous les remplaciez.
Allah Ishaq Java Toftaru. Père Wande Allah Bama. Potem Kwaha Abedaha Poli. Kununba Ustin Hode Tome. Jafuram Kunodo, on a un tajat.
Est-ce que tu nous sagas?
On est lié et tu connais nos voix à Sagatawa.
Filiam, je ne vais te tenir.
Et oui, direction Sénégal. Tirailleurs, un film qui fait polémique en France, sorti sur les grands écrans le 4 janvier dernier. Dans ce film, Omar Sy, grand comédien, imitateur et acteur chouchou des Français, interprète un père de famille sénégalais qui s'enrôle pour protéger son fils, recruté de force par l'armée française en 1917. Malgré les polémiques et les débats et comparaisons sur la guerre en Ukraine et les guerres en Afrique, il faut le dire, il y a aussi ces médias d'extrême droite qui ont voulu tendre un piège à Omar Sy. Et oui, il a dit, je cite, « Vous êtes ma force et ma France ». Après le bon démarrage de Tirailleurs, Omar Sy dit merci aux spectateurs français. Plusieurs auditeurs français ont eu la chance de voir le film. Jean-Louis, de la région parisienne, m'a envoyé un message. Et je cite, « On n'est pas dans un film américain pour le coup, et le but du film n'était pas de glorifier le rôle des tirailleurs, mais de montrer la détresse de ces déportés africains qui n'ont aucun rapport avec cette guerre. » Omar Sy était sur RTL, radio partenaire des tirailleurs. Voici un extrait de cet entretien.
C'est un acteur, c'est aussi l'une des personnalités préférées des Français. Bonsoir Omar Sy.
Bonsoir Julien.
Merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Vous serez demain au cinéma à l'affiche de Tirailleurs, réalisée par Mathieu Vadepied.
Tout à fait.
Vous coproduisez également ce film. On en est partenaire et on en est ravis parce que c'est un film qui est nécessaire, très fort, bouleversant, sur les tirailleurs africains envoyés au front lors de la Première Guerre mondiale. Vous y jouez Bakary, un papa qui s'enrôle dans l'armée pour protéger son fils qui, lui, a été recruté de force. 200 000 Africains ont combattu pendant la Grande Guerre, 30 000 sont morts, et pourtant, beaucoup de spectateurs vont découvrir cette histoire en regardant votre film. C'est une histoire qui est méconnue, qui ne saute pas aux yeux dans les manuels scolaires de nos gamins. Je crois que c'est même une histoire que vous avez découvert assez récemment.
Ouais, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là. En fait, non, les tirailleurs, en fait, pour être plus précis, les tirailleurs, pour ma part, c'était plus ce qui concernait la Seconde Guerre mondiale. Parce que il y a le fameux massacre de Charroy, tristement célèbre par rapport à ces soldats qui demandaient leur indemnité et qui finalement ont été tués. Ouais. Donc, pour moi, les tirailleurs étaient plutôt associés à la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand je rencontre Mathieu Vatpied il y a 10 ans...
Sur le tournage d'Intouchables.
Exactement, ouais. Parce qu'il était chef opérateur, donc à la cantine, il me parle de son envie d'être réalisateur et de ce film, en me posant la question suivante, et si le soldat inconnu était un tirailleur ? Et là, moi, ça m'interpelle parce que du coup, il y a un truc dans je vois bien la frise dans ma tête avec les dates qui correspondent pas bien. Je dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et puis, finalement, je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus tôt que ça, en fait. Les tirailleurs, en fait, ils ont fait la Première Guerre mondiale. Ils ont même participé eux-mêmes victimes du colonialisme. Ils ont aussi aidé la France à conquérir d'autres territoires, etc. Donc, tout ça, en fait, je m'y intéresse à ce moment-là parce qu'effectivement, j'avais pas tout ce détail-là, et surtout, j'avais pas les bonnes dates. Et en fait, associer les tirailleurs et les poilus, c'était pas quelque chose de simple pour moi. Et je crois que les gens vont, il y en a, je pense, beaucoup, en voyant le film, qui vont le découvrir, ouais. qu'en fait, que les tirailleurs sont des poilus des colonies, en fait.
On dit en plus tirailleurs sénégalais, mais il faut quand même préciser que ça regroupait tous les tirailleurs africains.
Africains, subsahariens.
Absolument. Oui. Vous qui êtes d'origine sénégalaise, de quelle manière est-ce qu'on parle de ça? C'est le pays de votre papa. Oui. Comment est-ce qu'on en parle là-bas? Est-ce que c'est un sujet? Parce que nous, dans nos manuels d'histoire, c'est quelque chose qui est quand même quasiment absent.
Nous, c'est un sujet, bien sûr. Il y a des récits. On voit d'anciens tirailleurs avec des uniformes. Moi, pour ma part, quand j'étais plus jeune, j'avais le voisin et ami de mon grand-père qui lui avait fait l'Indochine, qui se baladait avec son uniforme et tout ça. Alors c'est un mélange de fierté d'avoir porté les couleurs et d'avoir servi la France, et en même temps un peu de honte parce qu'en fait il y a eu de l'oubli, et ça parfois c'est douloureux. Alors tout dépend l'histoire de chacun, mais il y en a qui vont être fiers, qui vont parader avec leur uniforme et leurs médailles, et d'autres qui vont mettre ça dans un placard, ils vont pas en parler parce qu'il y a une forme d'humiliation quand même, le fait d'avoir été oublié, le fait d'avoir cru à une promesse qui n'a pas été tenue, il y a une forme d'humiliation, donc c'est très partagé en fait.
On découvre ce morceau d'histoire à la fois de la France et de l'Afrique dans le film, et on découvre des faits, on découvre que beaucoup de combattants ont été à l'époque en relais de force. Il y a une scène de rafle dans le village des personnages, on arrachait des gamins à leur terre. Alors qu'ils ne parlaient parfois même pas le français.
Ben oui, pour la plupart, ils ne parlaient pas le français. Et c'est vrai que, encore une fois, sur les tirailleurs, beaucoup se sont engagés parce que il y avait des primes à la clé, il y avait la promesse de la nationalité française. Donc beaucoup se sont engagés, mais ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait, il y en a aussi qui ont été en relais de force. En fait, dans certains villages où on voulait pas donner, où personne ne s'engageait, et qu'à un moment donné, quand il y avait un souci de rendement, parce que c'était quand même à l'époque le nombre qui comptait pour ces guerres-là, et ben ils en relaient de force. Bon. Ça, c'est une réalité aussi.
Et on parlait des différents peuples qui étaient au sein de ces tirailleurs. Il y avait des gens qui venaient de régions très différentes, donc des tirailleurs africains qui parfois ne se comprenaient pas. Oui. Et d'ailleurs, le film le montre extrêmement bien, c'est très immersif. Vous jouez Bakary, qui ne parle pas français dans le film. Vous parlez la langue peul, et c'est un parti pris qui est très très réussi pour le coup.
Merci, on est très content de ça. Effectivement, on avait envie de montrer ça, justement, que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas tous sénégalais, et que y avait un problème de communication déjà entre eux, et en plus un problème de communication une fois arrivés sur place, parce que ils ne parlaient pas le français, parfois ils savaient même pas contre qui ils se battaient. Il y avait tout ça qu'on avait envie d'illustrer, et ça passe par un Bakary qui parle pas le français. Donc on a choisi le peul puisque c'est la seule langue africaine que je parle. C'était plus pratique. Mais oui, on est content de ce pari-là. C'était pas évident à la base, mais en fait, ça pouvait pas être autrement. On n'aurait pas pu avoir un Bakary avec un accent ou quelque chose comme ça. Ça aurait été étrange.
Mais il y a une chose qui rend le film encore plus fort et plus intéressant, c'est que ce fils, donc votre fils dans le film, qui est enrôlé de force, vous le suivez en vous engageant. Et quand ce gamin arrive dans les tranchées avec les autres soldats, on voit que les officiers français, donc blancs, l'intègrent, et que même il a l'espoir, lui, de découvrir ce pays, d'apprendre de ce pays, et que c'est affreux à dire, mais il se prend au jeu, il se dit, et si après c'était aussi mon pays? Il y a aussi ce chemin-là qui est intéressant.
Bien sûr, mais en fait, dans ce chaos, dans toutes ces histoires mêlées, dans tous les destins possibles au milieu de cette guerre, mais il y a tout. Il y a ceux qui refusent, ceux qui acceptent, ceux qui sont contraints, ceux qui y arrivent, ceux qui n'y arrivent pas. En fait, il y a un peu de tout, et c'était intéressant pour nous de montrer un petit peu les deux. Celui qui reste ancré dans ce qu'il est, dans sa culture, et en fait, aussi parce que la langue le protège quelque part, puisqu'il ne parle pas la langue, il y a ce truc où il y a peu d'échanges, donc ça lui permet de rester là où il est. pour Tchernos, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est moins, on va dire, étanche, puisque lui, il parle la langue, il communique, ouais. Il parle le français. Donc, du coup, il y a un échange avec les soldats français, les blancs. Et donc, du coup, il y a un échange et il est en plus à un âge où on rêve grand, où on a envie de s'émanciper, on a envie de grandir. Et lui, malheureusement, au milieu, dans ce contexte-là, ça passe par des médailles, ça passe par des faits d'armes.
C'est l'autre force du film, quelque part. Il y a aussi ce drame, cette relation père-fils avec ce fils qui échappe au père et vous tentez à tout prix de le protéger. En fait, la portée universelle du film, elle est là. C'est-à-dire que ce film, il parle à tous les papas.
Exactement. Il parle à tous les papas et à tous les fils. Et c'est par là qu'on voulait passer parce qu'en fait, je crois que la meilleure façon de faire connaissance quelque part avec ces tirailleurs, puisque c'est quand même ça notre ambition, c'est de raconter les tirailleurs, leur donner la parole, c'est passer par quelque chose qu'on a tous en fait dans notre humanité, cette relation en fait filiale père-fils, on la connaît tous d'un volet ou de l'autre et même parfois des deux. Moi, pour ma part, c'est dans les deux sens, mais au moins ça, on sait que ça nous appartient à chacun en fait et qu'on peut tous se relier à eux par rapport à ça. Donc effectivement, pour nous, c'est ça le centre de l'histoire et derrière, on va amener un contexte qui nous raconte ces tirailleurs.
Puisqu'on parle de famille et notamment de votre famille, la langue peul, justement, vous la parlez au quotidien, Omar, avec, je sais pas, avec vos parents,
avec
vos
mes
enfants?
Parents, mes parents, oui, mes enfants, non, moins. Ils ont quelques mots, quelques phrases toutes faites comme ça, quelques formules. Mais mes parents, oui, en fait, c'était important pour eux qu'on parle cette langue à la maison, qui est leur langue. Alors, et pourtant, mes parents parlent et lisent le français, mais c'était important pour eux qu'on ait cette langue-là et que un jour on s'en serve. Alors je pense qu'ils pensaient plus au fait que je puisse marchander au marché quand je vais au Sénégal, mais ils pensaient pas que j'allais faire un film.
Je voudrais revenir avec vous sur les mots que vous avez prononcés dans les colonnes du Parisien hier. Vous disiez en substance que toutes les guerres étaient atroces, que vous n'aviez pas attendu la guerre en Ukraine pour vous en rendre compte, parce que malheureusement il y a des conflits qui brisent des familles en Iran, en Irak, en Afrique depuis des décennies. Et puis on a vu des élus de la majorité d'extrême droite réagir à une partie de vos propos. On a vu une polémique naître hier sur les chaînes d'infos. Le Parisien qui a réalisé l'interview s'est senti obligé de corriger le tir, de dire que vos propos avaient été sortis du contexte. Vous avez été surpris par ces réactions? Peiné, agacé, je sais pas.
Presque à moitié, c'est une surprise, mais en même temps pas vraiment. C'est un peu devenu systématique à chaque fois que je sors de ma cachette pour promouvoir un film. On essaye de mettre un nuage de fumée autour de la promotion de mon film. C'est un film qui parle de la guerre, effectivement, mais il parle pas du tout de la guerre en Ukraine. Ça parle de la Première Guerre mondiale. On parle des tirailleurs sénégalais. On essaye de détourner le propos. C'est devenu un peu un manège qui est en place depuis quelques années autour de ma personne. Comme on dit chez moi, je suis désolé sur RTL à cette heure-ci de le dire, on laisse pisser.
Ouais. Mais vous dites, c'est à chaque fois que je rentre. C'est-à-dire que des fois, vous dites, je ferais mieux de rester dans
je
ma cachette.
Non, pas du tout. Alors là, non. Alors croyez-moi, au contraire. Non, pas du tout. Je suis un peu habitué au mécanisme, mais ça va pas m'empêcher de faire des films, ça va pas m'empêcher de raconter les histoires que j'avais envie de raconter, d'essayer de sensibiliser et d'ouvrir d'ouvrir des conversations, en fait. Parce que ce qui se passe là depuis quelques jours, c'est que des gens qui ont des discours et qui parlent et qui font des monologues d'une traite pour des articles qu'ils n'ont pas lus, pour des films qu'ils n'ont pas vus, et puis ils font des débats, ils font des longs monologues comme ça, des grands discours, parce qu'on est au début de l'année, puis il y a pas grand chose à dire. C'est après, je suis flatté, moi, de d'être un sujet plus intéressant que la galette des rois. C'est vrai que c'est plus intéressant de parler de moi que la galette des rois, donc du coup ils ont un truc à se raconter, qu'ils le fassent. Mais moi, ça va pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire au moment où j'ai à le dire, et puis après l'interprétation, les choses sorties de son contexte. En tout cas, je rentrerai pas dans le jeu de devoir me justifier, raconter ou d'expliquer ce que j'ai dit. Ce que je l'ai dit en français. Et donc ceux qui ne savent pas lire, ne comprennent pas le français, qui retournent à l'école.
Juste plus réjouissant pour terminer, parce que vous parlez du début d'année. Avant la galette des rois, en général, il y a aussi le classement des personnalités préférées des Français.
Oui.
Jean-Jacques Goldman numéro 1, Thomas Pesquet numéro 2. Et vous êtes numéro 3.
Avant Kylian Mbappé.
Devant Kylian Mbappé.
Ils ont fait le sondage avant la finale, je crois. Ah. À mon avis, c'est avant la
pour
finale.
Une fois que quelqu'un qui supporte l'OM était devant
non.
le PSG.
Alors je vais vous dire. Alors, je suis supporter de l'OM. C'est clair. Mais Kylian Mbappé, il dépasse tout. Il y a plus de PSG, là. Ce qu'il a fait en finale, je l'aime d'amour. Voilà.
Bon, mais Omar Sy, troisième, c'est une satisfaction.
Ça fait plaisir.
C'est émouvant.
Ben oui, ça fait plaisir. Voilà, ben c'est une marque d'amour en fait.
Oui.
Et je prends et c'est bien pour ça que je vous dis c'est pas les 2-3 illettrés qui savent pas lire un article qui vont m'empêcher de sortir de ma cachette parce que il y a de l'amour et je suis décidé à le recevoir.
Merci Omar Sy d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Tirailleurs sort demain au cinéma. Courez-y, c'est un film qui est puissant, qui est bouleversant et qui est nécessaire. Merci beaucoup Omar Sy.
Merci à vous.
Et merci à RTL pour cet excellent entretien. Un film important, eh oui, Les Tirailleurs, pour réparer la mémoire collective. Nous espérons que ce film sera projeté à Toronto un de ces jours. Parlant de film, j'invite les enseignants des écoles francophones de Toronto à participer en grand nombre au prochain festival à jeunesse de ciné franco. Retrouvez tous les titres des films et les détails de projection sur cinéfranco.com. Le 12 janvier 2010, il y a presque 13 ans, un violent séisme a ravagé Haïti et entraîné un élan de solidarité sans commune mesure au sein de la population canadienne. Popouri Show était aux côtés de nos frères et sœurs haïtiens. Une catastrophe qui a laissé des traces à jamais dans nos cœurs. 13 ans après, Popouri Show et CUTFM se souviennent.
C'était un 12 janvier. Il était 16h53.
Il part au prince, c'était comme un nuage de poussière.
Georges Noël venait de reconduire sa femme et ses enfants à l'aéroport de Port-au-Prince. Joubert Mondésir était allé chercher ses enfants à l'école.
Je sentais la voiture qui montait et descendait.
Gaël Stephenson-Chancy jouait dans le gymnase de son école secondaire.
Comme un nuage de poussière qui s'est levé.
Martine Fidèle étudiait le droit à l'université de Port-au-Prince.
Tout était à terre. Tout le mur était tombé, c'était des morts partout.
Plus de 250 000 personnes ont perdu la vie et 300 000 ont été blessées. Plus d'un million d'Haïtiens se sont retrouvés sans abri. Une catastrophe d'une ampleur inimaginable, des souvenirs qui ravivent les blessures.
Je ne sais pas comment faire le deuil de cette tragédie.
Et parmi les manchettes qui ont marqué l'actualité francophone cette semaine, rapidement, les îles Chagos, situées dans une zone stratégique de l'océan Indien, appartenant jadis à l'île Maurice, revient sur l'avant-scène. Les négociations entre Londres et Maurice sur la souveraineté de l'archipel ont débuté la semaine dernière. Je vous rappelle que l'île Maurice est membre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Sur un fond de pénurie de main-d'œuvre en éducation, l'Université de l'Ontario français a accueilli la première cohorte de son nouveau baccalauréat en éducation le 9 janvier dernier. Elle compte 8 étudiants à temps partiel. Le programme à temps plein doit commencer en septembre 2023. Conférence « L'état du français dans le monde » présentée à l'Université de l'Ontario français, prévue le jeudi 26 janvier 2023 de 14h à 16h au 9 rue Lower Jarvis à Toronto. Parmi les conférenciers, professeur Richard Marcoux de l'Université Laval, Québec et Alexandre Wolfe de l'Observatoire de la langue française de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut absolument vous inscrire sur Eventbrite. Vous retrouvez tous les liens et les informations sur notre site popourichaud.com. Mais la nouvelle qui a bouleversé la francophonie torontoise, ontarienne, je dirais même canadienne, c'est sans aucun doute les cas de signalement pour harcèlement par les employés à l'encontre du consul général de France, Toronto, Tudor Alexis. Eh oui, plusieurs médias francophones, y compris TVA Nouvelles, Québec, et la télé de Radio-Canada ont consacré un temps d'antenne le mardi 10 janvier. Plusieurs plaignantes, surtout des femmes, ont témoigné leur désarroi face à la diplomatie française qui n'a toujours pas rendu ses conclusions depuis leur signalement. Selon une des plaignantes, le consul général de France est pathologiquement très toxique, narcissique et dangereux. Dans un courriel non destiné à la presse, Tudor Alexis clame son innocence. Pour ma part, j'ai eu qu'une seule rencontre avec Tudor Alexis depuis son arrivée à Toronto et cela a été une grande déception. Et oui, d'ailleurs, il est le seul consul général de France à Toronto qui n'a jamais participé à une de nos émissions. On y reviendra très bientôt sur ce dossier chaud sur cette antenne. Au rythme du carnaval 2023 de Martinique, Guadeloupe, qui démarre ce dimanche avec la participation de Saki Fête Fête, Caraïbe Groove et Carnaval All Star. Et je pars dès ce soir pour les festivités à Rivière-Salée pour assister à l'élection de la reine qui aura lieu le 28 janvier et la grande parade du 4 février et enfin le Vie des Pyjamas le 20 février. Nos émissions spéciales sur le mois de l'histoire des Noirs seront réalisées en direct de la Martinique et la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage intercontinental. Merci à Virginia Kelly pour les billets du film Saint-Omer. Eh oui, bravo aux gagnants. Gagnante, merci beaucoup d'être au rendez-vous chaque dimanche. Merci aux généreux et patients DJ Devera. Nos collègues à TV5 Monde, RFI, France 24, Emmanuel Kérad de France Inter, le groupe Mouvement Culturel Ekanga de la Martinique, j'ai hâte de vous rencontrer à Toronto ou en Martinique, pourquoi pas. Les nombreux auditeurs, auditrices qui nous ont envoyé de beaux messages, très encourageants, mille merci. Un bonjour spécial au professeur Elie Bouraoui, Diane Chaperon-Laure, les nouveaux collègues, collaborateurs, journalistes d'investigation. Eh oui, je sais qu'ils ont de beaux dossiers sur la francophonie d'ici et d'ailleurs. Allez, je vous laisse sur un air de carnaval. Pourquoi pas, chaque année, comme vous le savez, les carnavaliers, les musiciens composent des chansons sur un fait d'actualité. De grands compositeurs, mais aussi de grands interprètes ont marqué des époques. Le titre que je vous présente aujourd'hui, madame, monsieur, Chlordécone, représente une histoire simple et réelle pour les Guadeloupéens, les Martiniquais. L'impact cancérigène du chlordécone sur la population de ces îles dans l'indifférence du gouvernement français. C'est presque un crime à l'humanité. Chlordécone dénonce des comportements, met en lumière des faits. En voici la chanson, nouveauté du carnaval des Antilles, en exclusivité sur CUT 89,5 FM. Allez, je vous souhaite un bon carnaval. Ici Eric Kader, je vous retrouve dimanche prochain en direct de la Guadeloupe. Allez, ciao, ciao, ciao.
Moi, t'es caché et glow, pour toi, moi. yeah, yeah, yo voy a...